إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons entamer toute une série de cours à intervalles réguliers, inshallah tabaraka wa ta'ala, afin de relater les récits des prophètes et des messagers. L'objectif de l'étude de la vie des prophètes et de présenter des leçons aux croyants, afin que ces derniers puissent pleinement en tirer les fruits bénéfiques, que leur cœur et leur raison s'imprègnent des valeurs qui étaient celles de ces hommes, qu'Allah a choisi comme guide pour les gens. Ils constituaient les meilleurs des hommes, les plus pieux, ils furent des modèles de vertu, et ceci, quelles que soient les situations auxquelles ils furent confrontés. Il constitue de ce fait un exemple et modèle à suivre pour tout temps et toute époque. Ces histoires viennent motiver le croyant à accomplir le bien, viennent l'encourager à faire preuve de noblesse de caractère et de comportement, à prendre conscience des dangers de la désobéissance et de la transgression, à transmettre les messages d'Allah aux gens, et ceci, quels que soient les préjudices encourus, et enfin à s'armer de patience face aux épreuves. Toutes ces qualités, nous les retrouvons dans les récits des différents prophètes mentionnés dans le Coran ou la Sunna. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous parle de plusieurs prophètes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de confirmer à travers ses dires, et de nous parler d'autres prophètes qui n'ont pas été cités nominalement dans le Coran. En réalité, bien que le nombre de prophètes mentionnés dans le Coran est de 25, en réalité le nombre des prophètes est conséquent. Abu Dharr, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, rapporte et dit: j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quel est le nombre exact des prophètes. Et il me répondit 124 000. Puis il demanda au messager d'Allah, combien d'entre eux sont des messagers? Et le prophète de répondre sallallahu alayhi wa sallam, 313, d'un grand nombre. Ce nombre conséquent de prophètes, 124 000, peut s'expliquer par le fait qu'Allah a envoyé à chaque communauté un prophète qui les appelait à l'unicité d'Allah, aux bonnes mœurs, aux excellentes moralités, aux règles de bienséance à adopter suivant les situations et les circonstances. Malgré ce grand nombre, nous ne pouvons pas affirmer de manière tranchante que le temps qui nous sépare de Adam se compte lui aussi en centaines de milliers d'années. Il est fort probable qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait envoyé plusieurs messagers à une seule et même époque vers leurs communautés respectives et par conséquent dans différents endroits de la terre. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ عَبُودُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهُ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. dans le sens des versets, Allah dit, Jalla wa'ala, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taghout. Allah en guida certains, mais il y en eut qui furent destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Ce qui est notoire aussi dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le nombre de 124 000, c'est aussi le nombre beaucoup moins important de messagers. Ce qui soulève la question suivante, quelle différence y a-t-il entre un prophète et un messager? Sur ce sujet, les savants ont divergé. Il y a un premier avis qui est soutenu par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et quelques savants contemporains qui disent qu'un prophète est envoyé à un peuple acquis à sa cause, c'est-à-dire acquis à l'islam, un peuple de croyants. Ce prophète aura donc le rôle d'un savant ou d'un enseignant qui viendrait enseigner les détails et la modalité quant à la mise en pratique de la législation que ces gens suivent. Alors que le messager est envoyé à un peuple mécréant, et de ce fait, ils doivent les appeler à l'islam et à la foi. Ça, c'est un premier avis chez les savants qui font la différence entre un prophète et un messager suivant le peuple vers qui ils sont envoyés. Si c'est un peuple de croyants, alors on dira que c'est un prophète. Si c'est un peuple de mécréants, alors on dira que la personne qui a été envoyée vers eux est un messager. Un deuxième avis qui se tient aussi et qui est très courant chez les savants, c'est de dire qu'un prophète est un homme qui a reçu la révélation, qui est ordonné de transmettre ce qu'il a reçu en s'appuyant sur une législation déjà en place ou un livre déjà révélé constituant une référence religieuse chez ce peuple. Alors qu'un messager est un homme qui a reçu la révélation qui est lui aussi ordonné de transmettre ce qu'il a reçu de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cependant, il vient avec une nouvelle législation ou un nouveau livre qui constituera la nouvelle référence religieuse chez ce peuple. La différence qu'il y a entre les deux ici, c'est que le messager vient avec une nouvelle législation, alors que le prophète s'appuie sur une législation qui existe déjà, qui est déjà en place et qui a monnaie courante dans la société. C'est notamment l'avis de Ibn Abil Izz al-Hanafi, le grand commentateur de la Tahawiyya, et aussi de Muhammad al-Amin al-Shankriti et d'autres savants illustres avant eux. Ce qu'il faut retenir de tout ça, barakallahu fikum, en plus des différences énoncées, est qu'un messager a plus de mérite qu'un prophète, et ceci quel que soit l'avis retenu. En effet, les messagers constituent l'élite choisie par Allah Jalla Jalal pour porter son message. Ils furent de même les créatures les plus éprouvées, les plus patientes et les plus endurantes, escomptant ainsi la récompense d'Allah Jalla Jalal. Ces différents récits que nous traiterons nous sont parvenus par le biais de la révélation, à savoir le Coran et la Sunna. Il est indispensable de s'appuyer sur ces deux sources afin d'être sûr de citer des récits authentiques et de balayer par là même ce qui serait mensonger à leur égard. Quant aux récits rapportés par des chaînes de transmission faibles, alors ils peuvent être utilisés afin de conforter ce qui existe déjà comme récits authentiques. Et ils ne doivent en aucun cas servir de base historique, jusqu'à fonder une argumentation entière sur ce genre de hadith faible. Autrement dit, la ligne de conduite à adopter, lorsqu'on étudie l'histoire, et notamment l'histoire des prophètes, d'une manière générale, c'est de s'appuyer sur des récits qui viennent de la révélation, avec des chaînes de transmission authentiques, validant ainsi l'information attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci, justement, afin de ne pas attribuer à un prophète ou à un messager une parole ou un acte qu'il n'aurait pas dit ou fait. C'est pour cette raison que De nombreux savants ont, depuis les premiers temps de l'islam, tenté de compiler ces différents récits recueillis par la tradition orale ou écrite afin de les corréler avec ceux du Coran et de la Sunna authentique. Le travail fut considérable et colossal, de telle sorte que nous sont parvenus des ouvrages de référence en la matière, compilés en plusieurs volumes, interloquant et stupéfiant le lecteur à chaque époque sur le temps nécessaire qu'il a fallu pour accomplir de telles œuvres. Cet héritage dont nous disposons aujourd'hui par la grâce d'Allah nous fait prendre conscience de la ferveur qui était celle de nos prédécesseurs dans l'étude de la science, sa propagation, la recherche, l'écriture, la correction, l'analyse et d'autres domaines dans lesquels ils ont brillé et excellé. À titre d'exemple, nous pouvons citer le fameux ouvrage de l'imam Imaduddin ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Al-Bidaya wa Al-Nihaya, qui signifie littéralement le début et la fin. Cet ouvrage de référence reprend la chronologie des événements du début de la création, en passant par l'histoire et les récits des prophètes, en commençant par Adam alayhi salam et en terminant par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à décrire les événements de l'année 768 de l'Hégire, c'est-à-dire peu de temps avant sa mort, rahimahullah tabarak wa ta'ala. Et il cita à la fin de son ouvrage les événements relatifs à la fin des temps et ceux du jour dernier, jour où les gens comparaîtront devant Allah, Jalla Jalal. Ce livre, Al-Bidayatu wal-Nihaya, a la particularité d'être étayé dans sa grande partie par les chaînes de transmission des différentes narrations, permettant ainsi aux chercheurs d'étudier et analyser ces chaînes et de valider ou invalider telle ou telle information. Dans le même registre, nous avons Tarikh al-Muluk wa Rusul, l'histoire des rois et des messagers, de l'imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari. C'est un ouvrage lui aussi de référence, composé de plus de 10 gros volumes, où il commença à relater les événements du début de la création, en finissant à l'année 302 de l'Hégire. Il est un des précurseurs dans ce domaine. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Et beaucoup d'historiens après lui eurent à s'appuyer sur ses travaux. Il relate les événements comme une suite chronologique, en citant pour la plupart d'entre eux des chaînes de transmission. Cependant, comme Ibn Kathir, il ne s'impose pas à citer que des informations avec des chaînes de transmission authentiques. Mais, en citant la chaîne, il laisse au lecteur la possibilité de chercher la validité de l'information. Dans un autre registre, nous avons Tarikh al-Anbiya, l'histoire des prophètes de l'imam al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah wa tabaraka wa ta'ala, qui se compose que d'un seul volume, d'environ 400 pages, reprenant l'essentiel de chaque récit, dans un style clair et abordable, sans citer les chaînes de transmission, ce qui le différencie des deux livres que nous avons cités auparavant. Il cita donc ce qu'il pensait être le plus authentique. Il s'est notamment appuyé sur toutes les premières exégèses du Coran, où il y fait souvent référence. Parmi ces références, chez les compagnons, il y a les quatre califes, Abu Bakrin, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Aussi, il s'appuie sur les récits et les dires d'Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Parmi les tabi'in et ceux qui suivirent, il y a Ata ibn Sa'ib, ibn Ishaq, ibn Jarir, que nous avons cités, Muqatil ibn Suleiman et autres, rahimahumullah. Il s'est appuyé sur les travaux des historiens qui l'ont précédé, comme ceux d'Ibn Ishaq, ou ceux de Al-Ya'qubi dans son livre Tarikh al-Ya'qubi, ou ceux d'Ibn Jarir dans son livre que nous avons cité tout à l'heure, Tarikh al-Muluk. Voici quelques exemples d'ouvrages de référence, cependant la liste n'est pas exhaustive. En conclusion, le livre le plus véridique est le livre d'Allah, Jalla wa'ala, qui reste le livre de référence par excellence dans tous les domaines, et il reste la référence suprême dans les récits prophétiques, compte tenu de sa véracité. Voilà l'introduction que j'ai voulu vous faire avant de rentrer dans le vif du sujet, car il m'apparaît important de suivre cette méthodologie lorsque l'on aborde les récits prophétiques, à s'assurer avant tout de la véracité des informations. Adam, alayhi salam. C'est par lui que nous allons commencer, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Adam, alayhi salam, est le premier homme qu'Allah a créé. Et il est de ce fait notre père. C'est aussi le premier des prophètes. Ses mérites sont nombreux et immenses, et un de ses plus grands mérites est qu'Allah l'a créé de ses propres mains et à son image. Alayhi salam. D'ailleurs, Adam est décrit de manière assez détaillée dans plusieurs hadiths. Premièrement, on sait que Adam est créé de terre. Allah dit tabaraka wa ta'ala, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Dans le sens des versets, il a créé l'homme d'argile sonnante, comme la poterie. Et aussi Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. Nous créâmes l'homme d'une argile changeante, extraite d'une boue malléable. Une argile changeante, c'est-à-dire une argile qui, lorsqu'elle est laissée seule, elle change d'odeur et de couleur. Nous avons aussi un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Ronald Albani, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. D'après Abi Moussa al-Ash'ari, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, Allah a créé Adam d'une poignée prise de toutes les parties de la terre. Allah a créé Adam d'une poignée prise de toutes les parties de la terre. C'est pourquoi les fils d'Adam sont à l'image de la terre. Certains sont blancs, d'autres sont rouges, d'autres sont noirs ou mat de peau. Certains sont mauvais, d'autres bons, d'autres faciles de caractère et d'autres durs et d'autres entre les deux. Donc vous voyez bien qu'on a toute cette panoplie, toutes ces variantes de terre que l'on retrouve aussi chez les fils d'Adam. Nous avons un hadith authentique d'après Abi Huraira radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu qui a dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah créa Adam de terre. Puis il en fit une argile qu'il laissa jusqu'à ce qu'elle devienne une boue malléable. Ceci vient expliquer le verset coranique que je vous ai cité juste avant, où Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. Nous créâmes l'homme d'une argile changeante. صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. الصَلْصَال, c'est justement cette terre qui change, change d'odeur, elle change de couleur lorsqu'on la laisse. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah créa Adam de terre, puis il en fit une argile qu'il laissa, comme s'il la laissa mûrir, jusqu'à ce qu'elle devienne une boue malléable. Il le façonna alors et le laissa jusqu'à devenir une argile sonnante comme la poterie, en référence au verset que j'ai cité aussi. Et lorsque Iblis passa près de lui, il disait, tu as été créé pour une chose importante. Ceci l'intrigua. Puis Allah insuffla en lui de son esprit. La première chose que l'esprit pénétra fut ses yeux et ses narines. Il éternua, et Allah lui inspira de louer son Seigneur. Ensuite, Allah lui fit miséricorde. De même aussi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah créa Adam, celui-ci resta un certain temps, jusqu'à ce que la composition de cette terre changeât, jusqu'à devenir une terre comparable à une poterie sonnante. Et Iblis tournait autour de lui, et lorsqu'il vit qu'il était creux, il sut alors qu'il s'agissait d'une créature qui ne se maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il ou sa descendance ne maîtrise pas son âme face aux passions, ou bien il ne peut refouler les insinuations, ou encore il n'arrive pas à se maîtriser lorsqu'il est en colère. Ce sont toutes des explications que l'on retrouve chez les savants concernant cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala forma le corps de Adam, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, lorsqu'Allah insuffla de son esprit en Adam et que l'esprit pénétra sa tête, il éternua et dit « Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. » Et à ce moment-là, Allah lui répondit « Yarhamuka Allah, qu'Allah te fasse miséricorde. » Concernant la taille de Adam, Allah créa Adam d'une taille de 60 coudées. La coudée, si on la considère comme celle de notre époque, une coudée fait à peu près un demi-mètre, un peu plus d'un demi-mètre, 52 cm. 60 coudées, ça revient à peu près à 30 mètres, ce qui est énorme. Allah créa Adam d'une taille de 60 coudées. Il lui dit ensuite, « Ô Adam, va saluer ce groupe d'anges et écoute bien ce qu'ils te répondront, car ce sera ta manière de saluer et celui de ta descendance. » J'ai cité ici ce hadith pour montrer la grande taille de Adam, alayhi salam. Et d'ailleurs, ceci va être corroboré par un autre hadith où le prophète dira que jusqu'au jour de la résurrection, la taille des fils d'Adam ne cessera de diminuer. Lorsque Adam, alayhi salam, est parti voir ses anges, il leur dit, Assalamu alaikum, que le salut soit sur vous. Et ils lui répondirent, Wa alayka assalam wa rahmatullah, en rajoutant wa rahmatullah. Que le salut et la paix soient sur toi, ou le salut d'Allah soit sur toi, ainsi que sa miséricorde. Puis le prophète de conclure, sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui entreront au paradis seront à l'image de Adam, c'est-à-dire de 60 coudées. Et jusqu'à aujourd'hui, la taille de sa descendance n'a cessé de diminuer. Lorsqu'Allah décida de créer Adam, il en informa les anges en leur disant qu'il créera Adam et sa descendance et les fera se succéder sur terre. قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais certes établir sur terre un vicaire, un représentant. Or ici le terme de Khalifa, il a le sens plutôt d'une personne ou d'une descendance qui viendra se succéder génération après génération. D'ailleurs, de nombreux versets viennent appuyer ce sens parmi eux, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa al-ard. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre. Génération après génération. Puis Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa yaj'alukum khulafa'a al-ard. Et qui vous a fait succéder sur terre génération après génération. Donc Allah les informa de l'imminence de cette création. Les anges furent intrigués et interrogèrent Allah afin de connaître la sagesse derrière la création de cet homme. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Vas-tu y désigner un, c'est-à-dire un homme, une créature qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? L'exclamation des anges relève du fait qu'ils avaient déjà observé le comportement exécrable des djinns sur terre. Et ils ont supposé que Adam et sa descendance agiraient de la sorte. Puis, ils lui rétorquèrent qu'ils ne cessèrent de l'adorer et célébrer ses louanges, sans qu'aucun d'eux ne désobéisse ni ne commette de corruption sur terre. Et si la sagesse derrière ceci et qu'il te voue un culte exclusif et t'adore matin et soir sans interruption, alors nous, nous satisfaisons à ces tâches. Allah leur répondit que tout ceci relève de son omniscience et que les bienfaits, tant apparents que cachés, sont connus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sortiront de cette descendance des prophètes, des vertueux, des martyrs, des véridiques, afin que se distinguent par les épreuves les bons des débauchés. Allah a voulu aussi montrer la supériorité de Adam sur les anges, en lui apprenant les noms de toutes choses, ainsi que les sens induits, il lui a appris leur essence, leurs caractéristiques et leurs fonctions. قال الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها. Et il enseigna à Adam le nom de toute chose. En effet, ici le verset a une portée générale, appuyée par l'adverbe tout, le nom de toute chose. À cet effet, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, ils iront voir Adam et lui diront, le jour du jugement, tu es le père de l'humanité. Allah t'a créé de ses mains et il a fait se prosterner les anges devant toi et t'a appris les noms de toutes choses. Donc lorsqu'Allah exposa les choses aux anges, il leur demanda le nom de chaque chose afin de les éprouver et qu'ils se rendent compte au final qu'Adam est plus savant qu'eux, contrairement à ce qu'ils pensaient. Allah dit tabaraka wa ta'ala. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Puis il les présenta aux anges, c'est-à-dire il présenta ses noms aux anges et dit informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Seulement devant le fait accompli, ils avouèrent leur ignorance et reconnurent que leur science n'est simplement que le fruit de ce qu'Allah leur a enseigné. Et proclamèrent la pureté d'Allah et sa grandeur. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils dirent gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage par excellence. Après cet aveu d'ignorance de leur part, Allah a réaffirmé son omniscience et ordonna donc à Adam de les informer sur les noms de chaque chose. قال الله جل وعلا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Il dit ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand il les eut informés de ces noms, Allah dit: ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a cité dans son exégèse du Coran que cet examen donné aux anges s'est produit après qu'ils se soient prosternés devant lui. Seulement dans la sourate de la vache, Al-Baqara, l'examen est cité avant la prosternation, de par le lien qu'il y a entre le fait qu'Allah ait choisi Adam et son omniscience. De même, Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam. Et ceci est une preuve de l'honneur qu'Allah a fait à Adam alayhi salam, parmi les fastes dont a bénéficié Adam sur les autres créatures et par lesquelles il se distingue, il y a quatre choses. Premièrement, Allah l'a harmonieusement formé. Deuxièmement, Allah a insufflé en lui son esprit. Troisièmement, Allah a fait prosterner les anges devant lui. Quatrièmement, Allah lui a enseigné les noms de toutes choses. قال الله جل وعلا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle, je t'ai vu alors prosterné devant lui. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم